Je parle à partir d'un métier particulier qui fait que dans notre bureau, on mélange beaucoup aménagement du territoire et puis choses plus précieuses. Donc on travaille à plusieurs échelles et c'est la position que j'ai choisie dans ce métier et je vais donc parler un peu de ça, de ces deux échelles. J'ai deux exemples. Là, j'ai une longue suite d'une trentaine d'années autour de la question du musée des amitiés franco-américaines à Blérancourt. C'est une histoire très compliquée que je ne vais pas vous raconter là, mais qui est très, très, très à l'honneur de ce que les Américains ont pu faire, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, et notamment des Américaines qui non seulement étaient riches, mais aussi tellement généreuses, quoi. Donc on a là la démonstration que, au fond, on peut être dans une situation belliqueuse très forte et en même temps avoir une action modeste mais déterminante qui fait qu'aujourd'hui, ce lieu, il est toujours le lieu des amitiés franco-américaines. Il sera ouvert définitivement, je crois, à la fin de la semaine, mais je ne connais pas très bien la date de livraison de ce bâtiment. C'est aussi un truc intéressant de savoir qu'on ne connaît pas forcément la trace du bâtiment. Alors, je reviens à 1989, où on nous demande de faire un travail tout à fait classique. Il faut essayer d'arranger un pavillon au milieu de certaines ruines. Auparavant, l'architecture de la périphérie de tout ceci a été faite. Salomon Bros, qui est l'architecte du Sénat, qui a fait quand même beaucoup de bâtiments très intéressants dans notre pays, est encore présent à travers des pavillons, mais tout le reste est effondré à l'intérieur. On a donc une situation un peu curieuse, un grand axe qui mène à une allée d'arbres. À gauche, une partie historique, qui est toujours historique aujourd'hui. À droite, une espèce de factice travail, beaucoup de béton armé, censé imiter la pierre, enfin, toutes sortes de choses très, très curieuses. Et puis, on nous avait demandé, à l'intérieur de ce pavillon de droite, de moderniser un petit peu quelque chose. On a pris le... Je vais vite parce que ce truc est assez connu, puis ça fait 30 ans que j'en parle, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Grosso modo, il fallait savoir si on était capable d'établir une confrontation entre une ruine, parce que là, la partie, le soubassement, c'est vraiment du Salomon Bros, et puis notre intervention qui était forcément faite à partir des matériaux d'aujourd'hui. Et les matériaux d'aujourd'hui, en l'occurrence, au mieux, c'est... une pierre agrafée, oui. Mais donc on a mis au point, à l'époque, une sorte de politesse, au fond de retenue, en essayant de ne pas toucher les choses existantes, et puis en essayant de trouver aussi, joint à moi entre les deux, arriver à avoir peut-être même une idée de lumière à l'intérieur. Ce qui a abouti à cette coupe qui montre donc en bas le soubassement, lui, authentique, qui n'avait pas été écorché par la guerre, et au-dessus, une partie, alors qui était faite en béton, en acier, etc., etc., avec une façon un peu contemporaine d'essayer d'interpréter tout ceci. Alors, on a glissé une géométrie élémentaire, que j'appelle contemporaine, mais qu'on peut bien sûr considérer très, très élémentaire, et on a glissé une simèse, voilà, dans le lieu, avec l'idée que, au fond, on ne toucherait pas les éléments essentiels, mais qu'on affirmerait les éléments qui, eux, arrivaient avec cette nouvelle commande. Ça a abouti à ce type de situation à l'intérieur, qui ont eu un peu leur heure de gloire à une époque. Et puis on a continué. Pratiquement 30 ans plus tard, ou 27 ans plus tard, a travaillé sur ce sujet à partir de fouilles qui ont entre-temps été faites et qui ont montré une richesse assez exceptionnelle, dont il a fallu se passer en partie. Et bien sûr, j'assume ça, je ne suis pas tout seul à avoir décidé, bien sûr, mais voilà, on nous a demandé de remembrer, en fait, ce qui était l'ancien bâtiment. Alors, pour ceci, il y a d'abord eu des fouilles. Donc là, on voit un peu le résultat des fouilles. On voit les époques, etc. Et ces fouilles, elles étaient essentielles pour raconter l'histoire, mais les archéologues qui sont venus là, ont considéré qu'on pouvait se contenter de l'histoire sans avoir à restituer ce qu'on, bien sûr, on aurait eu beaucoup de mal à faire à partir d'un pastiche. Donc on est là dans une situation, on connaît les fouilles, on les aime beaucoup, elles nous paraissent très intéressantes, et puis on va construire par-dessus. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est ma culture, mais ça ne plaît pas à tout le monde, bien entendu. C'est quand même très significatif ce que les archéologues ont trouvé, c'est-à-dire que vraiment, là, on est à l'arrière du bâtiment que vous voyez tout à l'heure, et on est dans une... Voilà, on découvre les ruines, les fondations d'un certain nombre de bâtiments. Il a été un temps évoqué que peut-être qu'on pourrait essayer de les reconstruire, etc. Bon, c'était pas mon choix, parce que je ne sais pas le faire surtout. Mais très vite, tout le monde s'est dit, il faut finir ces travaux. Par contre, chaque fois qu'on peut, mettre en évidence le travail fait à l'époque. Donc, on a proposé ça. C'est-à-dire qu'on a proposé de construire, surtout là où les choses avaient été détruites. Donc on pouvait prendre au fond le cœur du bâtiment comme une fondation. Et ça nous a permis, d'affirmer une certaine autonomie au cœur et de toujours essayer de faire des raccords forts avec les parties existantes. On est censé inaugurer ça samedi, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, peut-être que ça va sans doute pas se passer, je ne sais pas. Mais on a fait une chose difficile, en tous les cas pour la première fois de ma vie, c'est assumer le centre. C'est-à-dire qu'on a occupé le centre d'un bâtiment qui en avait sans doute un de centre, dont on ne connaît pas exactement le détail. Mais c'est à la fois extraordinaire de détourner. Moi, mon diplôme s'appelait « À propos de détournement ». Alors, je suis ravi. Mais en même temps, je suis sûr d'être iconoclaste. Voilà. Parce que, et en plus, on n'a pas trouvé d'autre solution que d'assumer l'axe. Parce que lui, il vient de loin, il a une certaine force dans le paysage. Et on a donc construit des choses d'aujourd'hui dans une façon un peu singulière de composer un plan de manière très, très symétrique, quoi, tout simplement. Puis vous voyez, là, les archéologues, ils ont trouvé aussi un ancien pont, mais qu'il fallait franchir pour pouvoir accéder au bâtiment. Alors, ce que vous voyez là, c'était la semaine dernière... Il y a un conflit entre le chêne qui coule et puis sur des pierres qui devraient être neuves. Enfin, je ne sais même pas vous raconter l'histoire. Bref, en tous les cas, tout ça va partir pour garder uniquement, bien sûr, à la fois le pont qui permet d'y aller de façon sécure à l'entrée du musée et puis en dessous de pouvoir voir ce magnifique pont ancien. À l'intérieur, on n'a pas d'autre solution, d'après nous, en tous les cas, que d'assumer complètement la symétrie, même si beaucoup de choses seront asymétriques. Et on organise tout ceci selon une géométrie euclidienne très, très, très simple, mais au fond, qui se ferait un passage au milieu de l'héritage. Donc on voit là de certaines situations particulières. Il y a une grande différence de niveau, donc on prend un grand escalier, on essaye de faire que tout ceci soit écrit de la manière la plus sobre possible. On descend vers un lieu où on a cru découvrir des ruines anciennes, mais on n'est pas sûr. Certains pensent qu'il y a des choses qui ont été, au fond, fabriquées après. Enfin, c'est toute une histoire absolument incompréhensible, qui fait que j'ai vu dans ma vie, pour la première fois, un architecte du patrimoine s'occuper de détruire le patrimoine. Voilà. Enfin. Voilà. Donc, cette situation nous amène quand même, malgré tout, au fait que on expose quand même dans tout ceci les amitiés franco-américaines. Il ne faut pas oublier ça, quoi. Parce que, je reviens à mes deux héroïnes du début, elles étaient vraiment extraordinaires et riches. Et ça a fait un lieu de Blérancourt, une espèce de lieu d'abondance sur cette histoire simple, toute bête, d'amitié, quoi. Il y a des jardins magnifiques, faits par un architecte paysagiste américain formidable. Il y a tout un ensemble de choses que notre bâtiment là doit mettre un petit peu en relation, mais que, au fond, tout ceci était très très beau quand c'était épars dans la nature, parce qu'il y a une assez belle nature. Le Gardère qui s'est occupé de la mise en place, comme ça, de la scénographie de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on raconte, bien sûr, tout ce que je disais en vitesse, et il y a aussi deux, trois œuvres d'art dignes d'intérêt, quoi. Il y a des peintures très, très belles. Et là, on est dans les choses que je ne comprends pas de notre société. Là, vous voyez, il fallait mettre des poteaux parce qu'il fallait bien faire un bâtiment au-dessus, et puis alors, ils rencontrent des ruines, et puis on nous dit que c'est des ruines, et puis d'autres disent que c'est pas vraiment des ruines, que ça a été bidonné par on ne sait pas qui. Bref, on fait ça à la fin, grâce à l'apport d'Éric Palot, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui je travaille encore beaucoup, qui est vraiment un type très fort dans la relation avec le patrimoine. Enfin, on fait une très bonne équipe. Mais auparavant, il était passé d'autres qui... Voilà, qui pensait que c'était important. Voilà. Nous, notre affaire, elle continue de garder son image d'intégration d'un volume très complexe, parce que la disposition muséale est bien sûr un petit peu complexe dans tout ceci, dans des lieux très, très contrits, mais en même temps très attachants, très intéressants, très fait de sorte de dilatation. Vous voyez cet endroit, donc là on voit le bâtiment qu'on a construit il y a 30 ans, enfin la partie supérieure du bâtiment, parce que l'inférieur c'est bien sûr d'époque, ce qu'on vient de faire maintenant à droite, et puis ce petit jardin, il y en a un de chaque côté, il est arrivé grâce aux archéologues, quoi. Ils ont trouvé le moyen de nous faire comprendre qu'il fallait les garder, et puis on nous demandait, enfin on ne fait pas mieux. Mais si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que Vous ne pouvez pas faire ça chez vous, quoi. Même si vous êtes un jardinier extraordinaire, etc. C'est formidable, là, c'est que, voilà, elles ont... les pierres, elles ont 5 siècles, quoi. Enfin, on voit, donc, dans tous ces rajouts, le rapport entre le bâtiment. Alors, le bâtiment qui est à droite, ici, ancien, c'est un bâtiment vraiment historique. Bien sûr, les fondations aussi. Tout le périmètre, et puis on a essayé de trouver un dialogue entre ces pierres anciennes, le bâtiment d'il y a 30 ans, celui d'aujourd'hui, qu'on essaye de fédérer dans, bien sûr, une seule couleur et un seul... Ce qui fait qu'à la fin, on a reconstitué, au fond, le travail de Salomon de Brosse, sans Salomon de Brosse, mais avec quand même... L'idée de faire une chose forte dans tout ceci, c'est l'unicité du paysage, quoi. Blérancourt, c'est un endroit un peu loin, comme ça. Il faut 2 heures pour y aller, même s'il y a 90 kilomètres. Mais c'est un endroit qui a une structure, c'est un village qui a une très belle structure, etc. Et donc, On a l'impression qu'on a, au fond, fini ce château qui, est, pour tout le monde, a toujours été une sorte de grande ruine, quoi. Alors, je vais juste dire une chose. Moi, je fais ce métier surtout parce que je m'intéresse au paysage, quoi. Et je suis l'architecte qui aime pas trop les architectes. Ouais. Mais même si au fond je les aime beaucoup, mais si vous voulez, j'ai l'impression que souvent cela prend beaucoup de place. Alors je suis peut-être en contradiction avec ce que je vous montre là, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours être sincère dans tout ce système de pensée et de ce système de représentation et d'action à l'intérieur de lieux qui sont au fond qui sont estimés à des valeurs différentes par les uns et les autres. Alors là, je vous emmène dans un autre endroit très connu, très compliqué. Il s'agit des ducs de Bourgogne. Il y a Mansart, Gabriel, tout le monde est là. On a fait un concours il y a quelques années pour essayer de remettre en place le musée. Qu'on a gagné, on savait que ça durerait sur plusieurs années, on a déjà fini une première tranche, et puis on en fera une autre, et on est en train d'en faire une autre. Mais avec le sentiment qu'on est là vraiment dans du patrimoine exceptionnel de notre pays, quoi, où tout est absolument magnifique, même les sous-sols en ruine, enfin tout ça. Donc il y a une situation urbaine unique, parce que si vous voulez, la partie gauche de ce dessin, c'est la mairie. Le bureau du maire, il est mitoyen avec ce qui est coloré. Et ensuite, il y a toutes sortes d'époques. On a, du XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est une situation urbaine un peu inédite parce qu'au fond, vous voyez le plan, vous voyez qu'il y a un square jaune là au-dessus. Une très grande place au sud, et qu'au fond, on pourrait se dire que c'est la ville qui distribue les pièces du musée. Et on a une chance inouïe, c'est qu'au fond, si vous voyez toute la partie jaune, la jaune plus nette au milieu, on peut passer partout pour aller d'une partie du musée à une autre. Dans ce musée, il y a des chefs-d'œuvre inouïs, quoi. Donc, on a proposé ça comme schéma il y a 7-8 ans, donc comme ça qu'on a gagné le concours, en essayant d'organiser, de faire que le cœur de tout ceci devienne un cœur public. Donc la partie marron, là, au milieu, nous raccroche à l'espace public. Ça fait une sorte de ville intérieure, qui a bien marché avec la première tranche et qui est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui à cause d'une chose toute simple qui s'appelle Vigipirate. Il ne faut pas se moquer parce que c'est... D'abord, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet et c'est très castrateur, quoi. C'est-à-dire que vous ne faites plus confiance à personne. Quand vous allez dans un musée, c'est plutôt pour avoir confiance dans le monde, quoi. Là, on ne fait plus confiance à personne parce qu'on nous explique, et puis on est bien obligé, qu'à chaque coin, il y a un dangereux terroriste, quoi. Mais il se trouve qu'il peut arriver, il se trouve que, voilà, on l'a vu au Louvre il n'y a pas longtemps. Enfin, donc c'est devenu une espèce d'anti-urbanité que de vouloir essayer de travailler à partir de ce genre de situation. Néanmoins, on s'accroche. Aujourd'hui, on est à un an et demi, deux ans de la fin du chantier définitif. Je ne sais pas encore par où on rentre. Il y a bien des options, mais il va falloir qu'on se mette tous d'accord, et ça va être compliqué, parce qu'on a tous la même responsabilité dans tout ceci. En tous les cas, voilà donc un musée par partie réuni par une cour publique. Là, donc, des éléments clés. Bon, un morceau du 19e qu'on a pu transformer, là, c'était il y a quelques années. On a ici fédéré à travers, donc vous avez ici, il y a du 21e siècle à gauche, un peu du 11e siècle en face, et puis du 14-15e au milieu. Et puis il y a un super resto qui s'est installé là, qui fait que une vraie attraction. En ce moment même, pendant le chantier, il continue de fonctionner. C'est devenu un lieu intéressant. Souvent, les bistrots aident les architectes. Et on voit vraiment que voilà, cette idée autour d'un cœur de vouloir fédérer l'ensemble des parties est une idée qui peut marcher aussi vis-à-vis de la question du patrimoine, où la confrontation entre les époques se fait assez naturellement. Donc là, on voit lors de la première partie des voilà, les rencontres entre les différents matériaux, les différents styles, bien sûr des évocations. Alors là, on voit par exemple une chose intéressante, c'est que dans cette coupe, on voit, pour tout ce qui est à gauche, des salles de musée habituelles. Et puis on voit le bâtiment neuf que je vous montrais tout à l'heure, sur la droite, qui lui permet de mettre des ascenseurs aux normes, etc., qui lui assume la cohérence contemporaine de tout ceci. On a dû, alors ça c'est dommage, moi je trouve, mais enfin on a dû, ça c'est le tombeau des ducs, c'est l'emblème bien sûr du musée. Je trouvais bien avant, il y avait un peu de fouillis, maintenant il est devenu très, très... Ben, tout le monde est très content, donc voilà, on a parti. Mais c'était, quand je l'ai vu, moi je l'ai vu comme un peu un bric-à-brac de l'histoire, quoi, qui était, je trouvais ça plutôt intéressant, mais enfin bon, c'est pas ma responsabilité. Il y a ce passage qu'on a fait, alors là je mentionne beaucoup, bien sûr le travail fait avec Éric Palot. Voilà, on sait pas très, on arrive à travailler avec Éric Palot sans savoir, en tous les cas, à Dijon, ce qu'on a fait l'un ou l'autre, quoi, peu importe, l'une équipe ou l'autre équipe. On essaye de fusionner tout ceci et ça marche plutôt très bien. Là, ici, voilà, il y a une part. On a dû choisir la couleur de la peinture des murs, voyez-nous. Et puis Éric s'est occupé du reste. Mais tout ceci dans une ambiance, j'insiste là-dessus, quoi, sur. Au fond, il n'y a pas d'antagonisme dans ce métier si on le fait avec du cœur, quoi. Ouais. Par contre, il y a des éléments qui sont des éléments contemporains, dans les combles, notamment, comme on peut le voir ici. Après, des mises en place en fonction des œuvres qui sont bien sûr très, très, très intéressantes. Tout ça, c'est la première partie. Alors, on reconnaît les situations muséales liées aux bâtiments anciens. Et puis là, je vais mentionner une chose, c'est donc on passe devant, je ne sais pas quel est le nom exactement de la commission, mais la commission supérieure des monuments historiques, quelque chose comme ça, je fais court, et on propose un certain nombre de choses. Et il se trouve que dans ce bâtiment, à l'angle, là, il y a eu, dans les années 50, fin de la guerre d'Algérie, un architecte Michel, qui est un super architecte, qui a fait des choses extraordinaires en Algérie, qui s'est retrouvé en France et on lui a donné du travail. Et il a fait un musée magnifique à Besançon et il a fait une catastrophe ici. C'est-à-dire qu'une catastrophe, c'était très intéressant, mais il n'y avait plus un seul handicapé qui pouvait passer par là, tellement c'était fait de petites anecdotes pittoresques, issues du MZAB sans doute. Et il a fallu détruire le travail de Michel, ce qui était, pour le pied noir que je suis, un déchirement. Mais voilà, c'était le... Alors ensuite, une fois qu'on avait décidé de faire ça, il a fallu affronter les commissions. Là, on est quand même dans une partie du 19e siècle, mais la vigilance est au moins aussi grande, c'est normal. Et on a au fond, collectivement, avec les 50 personnes qui étaient dans cette commission, on a admis qu'on pouvait éventuellement transformer la toiture pour avoir dans cette toiture l'essentiel des éléments nécessaires à la muséographie moderne, quoi. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un travail sur le toit. Ça, c'est vu de l'autre côté, c'est-à-dire que Il fallait que ça ne se voit pas trop, mais il fallait en même temps, moi je voulais que ça soit fait avec les moyens modernes, que ce soit contemporain. Mais finalement, on y arrive, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, on a trouvé un certain nombre de compromis dans tout ceci qui fait qu'on y arrive. Mais ce qui est un peu troublant maintenant, c'est qu'on a une vision complète d'un élément qui était hybride. Quoi. Voilà. Et ça, voilà, moi, j'aurais jamais su faire dans ma vie du faux avec du vrai. Bon, et c'est très compliqué comme situation. Mais je suis sûr que il y a beaucoup de décisions architecturales dans ce genre d'endroit qui ne peuvent pas relever que de son propre sentiment. Et donc, c'est voilà un bâtiment très très largement partagé. Et ce que vous voyez là, c'est un croquis qui montre l'intérieur de ce lieu que je vous montrais auparavant. Hein, je reviens. Vous voyez, à l'intérieur de ça, en haut au milieu, vous avez ça en dessous qui aujourd'hui va nous permettre de fabriquer un lieu d'exposition. Alors après, il y a quelque chose d'aussi assez intéressant, c'est que finalement, si je... Mais attendez, je ne sais pas où j'en suis, non. Attendez, je vais faire quand même une chose qui ne se fait pas, mais... Ah, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Vous voyez, c'est... Tous ces éléments, tous ensemble, produisent... une sorte d'élan dans la ville. C'est-à-dire qu'au fond, c'est beaucoup fréquenté. J'insiste, mais le fait que le restaurant ait commencé par avoir un échec, le deuxième propriétaire un autre échec, et que le troisième, qui fait une cuisine extraordinaire, marche, tout ceci, ça crée de l'urbanité. C'est tout comme, par exemple, le fait que... Si je reviens sur le dessin, là, ici... Vous voyez, ça c'est la partie 19e. Il y a un théâtre. Personne ne pensait qu'il fallait faire une place là, parce qu'il y avait toutes sortes d'usages liés au théâtre, etc. Puis qu'aujourd'hui, on est en train de s'interroger collectivement pour savoir si ce n'est pas finalement une vraie place, cet endroit-là. C'est-à-dire que cet endroit, il naît de la capacité des acteurs, tous très, très nombreux, y compris politiques et tout ça, au fond, essayer de transcender la situation qui a été celle de la rénovation du musée des Beaux-Arts de Dijon. Et là, voilà, je tenais à parler de ça, parce que en attendant, on fait ça, et surtout, on fait ça. Ça, cette photo-là, c'est elle que je vous montrais en dessin tout à l'heure, 3 dias plus tôt. C'est-à-dire que l'autonomie de la modernité peut arriver à renforcer, me semble-t-il, les valeurs fondamentales des lieux. Et ça, je trouve que il faut vraiment bosser là-dessus. Quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui transcende, au fond, largement la simple commande qu'on peut avoir et le simple respect qu'on peut avoir vis-à-vis de l'héritage. Comment aller au-delà ? C'est un peu la question que je pose par rapport à ça, qui n'importe qui pourrait déjà avoir un super salon dans ce coin-là sans difficulté. Mais on va tenter, là, collectivement, d'aller beaucoup plus loin dans ce lieu. Alors, je vais juste conclure en vous disant une chose toute simple. Moi, je fais mon métier à partir du territoire. Je ne fais pas mon métier à partir des dogmes architecturaux, que je ne connais pas d'ailleurs, ou je connais surtout la culture du XXe siècle, je pense que, au fond, la question essentielle sur la transformation du territoire peut être une façon de répondre à la question stylistique qui est posée régulièrement dans toutes les commissions de notre pays, dès lors qu'il s'agit d'insérer quelque chose de contemporain dans un lieu ancien. Voilà, merci.